Tard, Ben Jeloun a accepté de venir témoigner de Jean Genet. Et je dois dire que c'est une chance. Ce geste, le fait de venir comme ça, peut-être de traverser le détroit de Gibraltar, comme Genet le faisait, d'arriver jusqu'en France et de venir jusqu'à Fontevraud, ça me rappelle toujours le geste d'Érasme qui écrivait que lorsqu'il entend le nom d'homme, il s'empresse d'accourir. Donc merci vraiment, Tahar Ben Jeloun, de votre générosité, d'avoir accepté de venir témoigner. Tahar Ben Jeloun est né en 1944, il est membre de l'Académie Goncourt, il a reçu le prix IMPAC, il a reçu le prix Goncourt pour la Nuit sacrée en 87, il a écrit en 73 Arunda et en 77 La plus haute des solitudes, deux livres qui l'ont conduit à rencontrer Genet. Enfin, il publiera en 2010, en octobre prochain, Le Menteur Sublime, un portrait de sa rencontre avec Jean Genet. Donc, pour commencer simplement, et Tahar Ben Jeloun, est-ce que vous pouvez dater votre première rencontre physique avec Jean Genet et quels souvenirs vous avez de cette rencontre physique avec lui?
Je voudrais préciser, on ne rencontre pas Jean Genet, c'est lui qui vous rencontre. Hein. Toujours été comme ça. C'est lui qui va vers les gens, et il ne supporte pas qu'on aille vers lui. Comme ça. Alors, moi, je me souviens, ça devait être l'automne, novembre 74. Parce que un an auparavant, j'avais publié mon premier roman chez Maurice Nadeau et il avait fait une émission à France Culture où il s'en prenait très violemment à Sartre, lui reprochant de ne pas avoir lu mon roman et deux autres livres d'ailleurs, écrits par des auteurs d'origine maghrébine, dont un immigré qui s'appelait Ahmed et qui racontait sa vie, qu'il avait racontée un peu au magnétophone, à l'enregistrement, et il reprochait à Sartre d'être passé à côté de voix essentielles, etc., etc. Et l'Humanité, le journal, avait publié cette intervention. Moi, j'étais pas un lecteur de l'Humanité, mais j'avais un ami libraire qui était rue de Rennes, et lui, c'était un ancien militant communiste. Il lisait encore l'Humanité, et il m'appelle, il me dit, écoute, il y a un article extraordinaire sur ton dernier livre par Jean Genet. Alors, j'étais un petit peu, je crois que c'était une blague. Bon, j'étais un peu ému. Alors, effectivement, j'ai lu cet article et j'ai comme je fais d'habitude pour n'importe qui, j'ai envoyé un petit mot de remerciement à Jean Genet chez Gallimard. Et j'ai laissé mon adresse derrière l'enveloppe. J'étais à l'époque étudiant, j'habitais à la cité universitaire, à la maison de la Norvège, et puis un matin, le téléphone sonne et on m'appelle, je descends, parce qu'on n'avait pas le téléphone dans les chambres, je descends et je prends le téléphone, mais je me souviens très très bien de cette voix. Il me dit, allô, ici c'est Jean Genet. Vous ne me connaissez pas, moi je vous connais, je vous ai lu et j'aimerais beaucoup vous rencontrer. Alors évidemment, c'est un petit peu. Il me dit, et si vous êtes libre, je vous invite à déjeuner. Tout ça en même temps, je dis, c'est pas possible, c'est une blague. Et il me donne rendez-vous au restaurant L'Européen qui est en face de la gare de Lyon. Et en partant, il faisait très beau, il faisait un soleil magnifique ce jour-là. Et en partant à ce rendez-vous, je me suis trompé de gare. Je suis allé à la gare du Nord au lieu de la gare de Lyon. Ce qui fait que je suis arrivé en retard au rendez-vous. Et je me souviens très bien, il était sur le trottoir à l'angle avec un bouquin, enfin un manuscrit à la main. Et il m'attendait. J'ai été très impressionné par sa peau, par là, il avait des joues de bébé, tout rose, bien rouge, tout rose, bien, bien, bien rasé, pétillant, ses yeux bleus pétillants comme ça. Et j'ai eu ce malheur de lui dire, il fait beau aujourd'hui. Et il m'a dit, ne m'emmerde plus jamais avec la météo. Ça a commencé comme ça. Et alors, le déjeuner, moi j'ai cru qu'il fallait bien faire de lui parler de ses livres. Et j'avais lu le journal du voleur, je dis, ah là là, quel livre. Et deuxième rebuffage, il me dit, ne m'emmerde jamais avec mes bouquins. Je les ai écrits pour sortir de prison. Maintenant, je ne suis plus en prison. Donc, basta, plus jamais entendre parler de mes livres. Ça a été un déjeuner assez difficile pour moi. Et alors, je me dis, mais c'est quand même bizarre. Et en partant, il me dit, bon, je t'appelle. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à... au dernier mois avant sa mort, parce que je ne l'ai pas vu les 6 derniers mois avant sa mort, c'était toujours lui qui m'appelait. Et il partait parfois 2-3 mois, et un jour il revenait, il appelle, et il me dit, bon, j'arrive, ou alors tu viens. Bon. Et on passait toute une journée à parler, etc. Donc c'est comme ça. Enfin, c'est un souvenir très précis, mais les dates précises, je ne les ai pas vraiment en tête.
Il y avait aussi dans ces mêmes années, enfin je dirais un peu plus, je préciserai un peu le contexte historique dans 2 minutes, mais pour rester sur cette rencontre, c'est le moment aussi où vous avez soutenu une thèse, hein, je crois en 1975, qui s'appelait « Problèmes affectifs et sexuels des travailleurs nord-africains en France », qui est devenu ensuite donc le livre « La plus haute des solitudes ».
Oui.
Et je ne sais plus, j'ai lu quelque part qu'il avait assisté à cette soutenance de thèse.
Alors, c'est déjà à ce moment-là, on se connaissait assez bien. On avait déjà travaillé ensemble parce qu'en fait, c'était une amitié très, je dirais, fatigante. C'est pas le mot, mais épuisante parce que il fallait être présent quand il le voulait. Il fallait faire ce qu'on devait faire. Et c'était la première chose qui m'est dite. Il revenait. Alors, oui, voilà, quand je l'ai rencontré la première fois, il revenait des camps palestiniens et surtout expulsé de Jordanie. Et il me dit, j'ai vu des choses terribles dans les camps. Il faut absolument qu'on les fasse savoir autour de... Alors, je lui dis, mais écoute, on va essayer. Et je savais qu'à l'époque, que le quotidien Le Monde, auquel je commençais à peine à collaborer, ne pourrait pas être preneur d'un texte de jeunesse sur les Palestiniens et tout. Et j'étais allé voir Claude Julien, qui dirigeait Le Monde diplomatique, et il m'a donné la dernière page. Il m'a dit... voilà, vous faites ce que vous voulez avec la dernière page du Monde diplomatique. Alors, une fois que j'étais sûr de ça, j'ai dit à Jeunet, allons-y, on va travailler. Alors, on a travaillé, on a pas mal travaillé sur son expérience qu'il a vue dans les camps. Et là, je me suis rendu compte de sa méthode de travail. C'était un homme d'une exigence épuisante. Alors là, c'était terrible. Il vérifiait chaque mot, je me souviens, il m'appelait parfois parce qu'il se levait très tôt, moi je ne me levais pas très tôt, enfin lui 6 heures, moi je me levais à 8 heures, 9 heures. Alors il m'appelle, il me dit, cette nuit j'ai pensé, tu sais, le mot, tel mot dans tel paragraphe, il faut le changer parce que les Palestiniens méritent qu'on les traite bien, y compris avec la langue française. Donc il était... Bon, donc... je lui avais fait donner à lire ma thèse de doctorat sur la sexualité des immigrés, enfin sur l'impuissance sexuelle chez les immigrés. Et il avait beaucoup aimé ce livre, et, enfin ce texte, parce qu'après c'est devenu un livre, mais et il m'a dit, tu vas le soutenir, tout ça. Il m'a dit oui, il m'a dit, ben, je vais venir. Et c'était à Jussieu. C'était un début d'après-midi, on est arrivé. J'avais quelques amis, bien sûr, et lui était évidemment un ami encombrant parce qu'il était là, il chahutait, il n'était pas tranquille, il rigolait, il fumait ses cigarillos horribles, les panards, et les panthers. Et puis, À ce moment, le jury se retire pour délibérer. Et lui, il dit, mais ça ne va pas, vous avez besoin de vous cacher pour dire que c'est une excellente thèse. Donnez-lui sa thèse. Enfin, il a fait tout un scandale. Mais c'était il a fait du jeûner. Et effectivement, on a rigolé, ça s'est bien passé. Mais ce qui est, c'est là où je vais découvrir quand même un autre aspect du personnage de Jean, c'est que une fois que la thèse a été soutenue, il m'a dit il faut absolument publier ça. J'ai dit ben oui. Alors à l'époque, je vais publier donc un premier roman. Chez De Noël, chez Maurice Nadeau, et puis des poèmes chez Maspero. Et je collaborais au Monde. Je n'étais pas totalement inconnu, mais quand même. Alors, on a commencé par Gallimard, avec un petit mot de Genet. Il dit, je suis prêt à faire une préface si vous publiez ce livre. Gallimard répond, non, ça ne nous intéresse pas, etc. Après, Maspero lit le livre, il dit ça y est, je vais le publier, aucun problème, c'est formidable. Il me dit, je n'ai pas besoin de préface ni rien. Et puis, François Maspero a des problèmes personnels assez graves, il fait une tentative de suicide, et tout ça n'a rien à voir avec mon bouquin. Hein. Mais après son retour de l'hôpital et tout, et il renonce à publier tous les livres qu'il devait publier, il quitte les éditions, donc le livre était tombé à l'eau. Ensuite, je le donne, et tout ça, je tenais au courant, je n'ai. Après, je donne le livre aux presses universitaires de France. Et il y avait là-bas une dame d'origine algérienne, ou je sais pas, enfin, juive, qui trouvait le livre formidable. Et puis, trois jours après, elle me le renvoie, elle me dit, je ne pourrais pas publier ce livre. Bon, sans commentaire. 30 ans après, vraiment 30 ans après, j'apprends que cette femme avait refusé le livre parce que je venais de publier une tribune dans Le Monde contre l'annexion par Israël de la trouée de Rafah près de l'Égypte. C'était en 76, je crois. Et à cause de ma prise de position pour une annexion illégale de l'armée d'Israël, là, le livre n'est pas paru. Enfin bref, je continue comme ça. Oui, le livre est passé aussi par Payot. Et chez Payot, il y avait un psychanalyste, Roger Doss, je crois, qui lui a refusé le texte parce qu'il me dit « Vous ne parlez pas d'homosexualité, donc c'est un livre qui n'a aucun intérêt ». C'était comme ça. Enfin bref, ça a duré une bonne année de refus jusqu'au jour où je le donne au Seuil à Claude Durand qui l'accepte et le livre a eu un succès inimaginable à l'époque et Genet était très content. Ben, tu vois, c'est bien fait pour leur gueule.
Oui, donc je rappelle un peu le contexte que vous avez évoqué à l'instant. 74, 75, 76. 74, c'est le moment où l'OLP, la deuxième charte de l'OLP, qui acceptera toute partie du territoire libéré, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'OLP ne nie plus l'existence d'Israël. J'en dis encore deux, trois petites choses. C'est le moment où la RAF, la fraction armée rouge, est en prison. Et l'ouverture du procès en 1975 et le suicide ou pas de Ulrike Meinhof dans sa cellule en 1976. C'est le moment de la réforme pénitentiaire, les quartiers de haute sécurité en France, dont Foucault va beaucoup parler. Et donc le moment aussi du GIP, du groupe d'information sur les prisons. C'est le moment où Valéry Giscard d'Estaing sera président en 1974 hein, pour 7 ans. Et 35 ans de droite en France qui démarre à ce moment-là. Et c'est le moment, enfin, d'un plan pour l'arrêt total de l'immigration en France et où Jacques Chirac déclare « La question du logement social n'a aucune importance à mes yeux. » etc. etc.
Et puis l'exécution, la dernière exécution capitale de Bonton. Et ça, je me souviens très bien de Genet qui me disait à chaque fois que je vois Giscard d'Estaing à la télévision avec sa bouche en cul de poule, j'ai envie qu'il me fasse une pipe. Ça, c'était sa façon de parler de Giscard à l'époque. Bon, il était comme ça. Et c'est une époque, oui, c'est une époque politique très, très trouble, extrêmement, disons, qui va causer beaucoup de problèmes à Genet, notamment l'histoire de violence et brutalité, c'est-à-dire la préface qu'il va faire au livre publié par les éditions Maspero sur la bande d'Abadère. Et ça, ça va être un moment tragique dans la vie de Genet.
Oui, la question là que je n'ai pas encore posée, c'est en quoi cette politique est la clé de cette amitié à ce moment-là. Mais peut-être que notre entretien, d'ailleurs, vise à essayer de comprendre s'il y avait amitié ou pas. Est-ce que c'était que l'amitié avec Genet ? Mais donc, est-ce que la politique à ce moment-là
nourrit
cette rencontre ?
Non, je vais parler de l'amitié parce que c'est un point très étrange. Jean Genet n'avait aucun sens de l'amitié, ni de la fraternité, ni de la solidarité, ni de l'égalité. Il me disait que ce sont des mots creux, ça ne veut rien dire. Et je pense qu'il avait le sens de l'amour, de la passion plutôt, de la passion amoureuse, et de la relation utilitaire. C'est-à-dire qu'il va, par exemple, me fréquenter pendant une dizaine d'années parce que je lui étais utile pour lui présenter, c'est moi qui lui ai présenté l'Ala Shahid, c'est moi qui l'ai introduit auprès de Mahmoud Darwish. J'étais pour lui celui qui lui a ouvert certaines portes dont il avait besoin. Et moi, je me tenais à carreau parce que je voyais comment il traitait ses anciens copains. Enfin, je ne peux même pas dire ses amis. Parce que un jour, je me souviens, Maria Casares, qui était quand même une amie à lui, prend contact avec moi pour me dire « S'il vous plaît, donnez-moi des nouvelles de Jean, dites-lui que j'aimerais le voir. » Et alors, j'ai dit à Jean « Tu sais, Maria Casares, etc. etc. » Il me dit « Elle m'emmerde !» Il était comme ça. Monique Lange, qui était très proche de lui aussi, et Juan Gauthier Solo, m'appelait pour avoir de ses nouvelles. Et à chaque fois que je lui parlais de ses amis, il était amnésique. Il ne me disait rien sur eux. Il ne me disait pas « Ah oui, c'est vrai ». Non, non, il les ignorait. Et ça a été la même chose pour... mais là, c'est un cas assez dramatique qui m'a ouvert les yeux sur ce qu'on peut attendre de lui et ce qu'on ne peut pas attendre de lui. C'est le cas de Nikos Papatakis. Alors, avec Nikos Papatakis, ça a été terrible parce que c'était une amitié, en tout cas une rencontre assez forte. Papatakis avait trouvé de l'argent pour produire Chant d'amour, je crois que c'est ça, et ils l'ont tourné dans les caves de sa boîte de nuit. Ce qu'on voit dans, c'est la cave de la boîte où se produisaient les chanteurs, etc. C'était appartenant à Papatakis. Et puis, chose extraordinaire pour aller plus loin, c'est que quand Papatakis se marie avec Anouk Aimé, c'est Jean qui fait le témoin. Chose qui était inimaginable, qu'il soit témoin d'un mariage entre Nikos et Anouk Aimé. Donc, ils avaient des liens. Ils avaient fait des choses ensemble. Ce n'est pas uniquement une relation pour boire un café. Non, non, ils ont travaillé ensemble. Et un jour, c'est la grande trahison. Je crois que Albert Desché raconte ça très bien dans sa chronologie. Il y a une histoire de cambriolage. Genet va cambrioler une maison avec un copain et ils se retournent contre ils prennent l'argent, ils ne partagent pas et ils dénoncent Papatakis. Donc C'est horrible. Mais je pense que des choses comme ça, des trahisons concrètes qui font mal à l'autre, il y en a eu beaucoup. Moi, je ne connais que celle-là. Mais je pense que lorsqu'il était à Barcelone, lorsqu'il était ailleurs, il devait faire des vraies trahisons, c'est-à-dire des coups de salaud, vraiment de choses qui ne se font pas moralement et humainement. Donc c'est pour ça que moi, je me tenais vraiment à carreau. J'ai dit, oulala, celui-là, il faut faire attention avec lui.
Trahison. J'aimerais revenir encore, et pour finir peut-être ce moment de notre entretien, sur cette rencontre que j'ai prise au sérieux, en fait, dans le bouquin, dans le dernier Genet, que j'ai analysé, mais je suis content qu'on puisse en parler maintenant, puisque, en fait, quand vous l'avez rencontré, quand il a lu Arunda et qu'il a écrit un article sur le livre, c'est un livre dans lequel vous parlez de Genet et dans lequel vous prenez à partie. Donc j'aimerais juste citer deux, trois petites choses. Pour continuer à entrer dans le sujet dont on a parlé un peu plus tôt. Donc, vous écrivez « Genet, parleras-tu encore du prestige de cette ville qui n'est plus le repère des traîtres que, il s'agit de Tanger, qui n'est plus le repère des traîtres que tu aimes. Plus personne n'ose trahir des jeunes gens qui traînent dans le Soko Chico à la recherche d'une quelconque séduction, croyant trahir l'ordre, croyant trahir le pouvoir, croyant trahir la famille. Ils viennent d'Amérique et d'Europe au moment où notre continent perd sa différence. » Puis vous écrivez, « L'homosexuel voyageur, souvent riche, qui vient à Tanger, ne sait pas et ne peut pas savoir que même s'il exploite une situation inouïe où les corps se donnent pour peu, comme il est vu et considéré par ses corps, la complicité existe à peine, la honte est à la charge de l'autre. En fait, il n'y a qu'une illusion de l'échange. Rien ne circule ni ne passe entre eux, si ce n'est du sperme. » Bon, donc on ne peut pas être plus clair, enfin, sur la critique à la fois de l'homosexuel qui va en Afrique du Nord pour se payer des garçons pour peu cher. Et dans le dernier Genet, je mettais en rapport la question de l'immigré, d'une part, en France, qui est un corps arabe, vidé de son désir et exploité comme force de travail, et le corps du Marocain au Maroc, qui est vidé de son identité et exploité comme désir. Donc, quand vous pointez ça, et que Genet vous appelle, et que vous déjeunez avec lui, c'est quand même... Je ne sais pas, j'aimerais en savoir plus pour être simple, comment il a accepté la critique? Est-ce qu'il vous en a parlé? En même temps, la rencontre s'est faite sur ça.
Je pense qu'il n'a même pas lu le livre. Mais ça lui ressemble. Et en même temps, une seule fois, nous avons parlé de sexualité et d'homosexualité. En 12 ans, c'est peu quand même. Alors, la première fois, on était au café, tout à fait au début, et il me regarde comme ça, il me dit, « Toi, tu n'as jamais couché avec un homme, ça se voit. » J'ai dit, « Non, c'est vrai. » Alors, après, il me dit, « Tu sais quel est le peuple le plus féminin ?» Le peuple féminin, je dis, « C'est quoi ?» Il me dit, « Le peuple le plus baisable. » Alors, je ne sais pas, j'ai commencé à dire un peuple méditerranéen, j'ai dit, « La Grèce. » Il me dit, « Pas du tout, c'est l'Allemagne. » Alors, c'était l'unique fois où nous avons parlé de sexualité. Et là, bon, une autre fois, mais c'était pas parlait pas de sexualité entre hommes ni la conception de l'homosexualité, mais la fois où la revue Masque était entrée en contact avec moi parce que j'avais donné une interview à Masque. Et il m'avait apporté plusieurs numéros de leur magazine, enfin de leur revue, pour le donner à Genet pour qu'il leur donne une interview. Et c'est là où il m'a dit, les homosexuels, c'est elles m'emmerdent, je les hais, c'est ça le PD qui me fout la paix. Je ne veux plus jamais entendre parler d'eux. Je dis, mais écoute, arrête, c'est des jeunes qui font une revue magnifique, courageuse, tout ça. Je dis, et il commençait à crier. Il ne supportait pas qu'on le mette dans une case. En fait, je pense que moi, je l'ai connu au moment où l'homosexualité ou la sexualité en général ne l'intéressait plus. Je crois, mais ça c'est une hypothèse très subjective, je peux rien. Et elle est un petit peu. Il a essayé un peu de m'indiquer ça à un certain moment, parce que je l'avais beaucoup aidé pour son dernier ami, Mohamed, qui l'avait ramassé dans la rue. À Fès, et après il lui fallait faire c'était un déserteur de l'armée marocaine, il fallait d'abord lui faire un passeport, le faire venir en France, enfin, bref c'est une on a passé des mois et des mois à courir pour sortir Mohamed du Maroc et le faire venir à Paris, mais à l'époque il n'y avait pas de visa, il suffisait d'un passeport en validité pour passer. Et c'est le représentant de l'OLP à Paris, palestinien, Azdine Qalak, qui va contacter l'ambassadeur du Maroc à Paris et lequel va contacter le ministère de l'Intérieur pour qu'on donne un passeport à Mohamed. Et c'est comme ça que Mohamed va débarquer à Paris. Donc, il débarque à Paris, etc. Et puis, moi, j'étais tout le temps avec Mohamed parce qu'il s'ennuyait un petit peu, il allait voir les putes, Jeunet râlait. Bon, c'est une histoire. Et un jour, Jeunet me dit, j'étais en tête à tête avec lui, il me dit, tu vois, Mohamed, il a un corps magnifique, il est beau, hein, mais tellement pudique, tu sais, quand il s'habille ou se déshabille, il se cache, il ne me laisse pas le voir. Alors, j'en ai conclu peut-être qu'ils n'avaient pas de relations sexuelles. J'en sais rien. J'ai jamais su. Mais une fois, on a dû intervenir à l'arrache parce que la femme de Mohamed était insultée dans le hammam par d'autres femmes avec des mots grossiers en arabe. Lui disant qu'elle vit avec l'argent d'un déviant qui fait du péché. Enfin bref, c'était horrible. Comme les insultes en arabe, c'est très lourd. Et c'est là où Jeunet m'a demandé de faire taire ces insultes à l'arrache. Et j'ai dit, mais je ne peux pas, moi, faire empêcher les femmes d'aller dans le hammam. Et non, en plus, les voisins jetaient leurs immondices et leurs poubelles sur la terrasse de la maison de Mohamed à l'arrache. Et il me dit, il n'y a qu'une seule façon, il faut qu'il sache que Mohamed est un homme qui connaît des gens très puissants. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il me dit, tu ne veux pas faire venir Général Glimi. Général Glimi, c'était à l'époque l'homme fort du Maroc, c'est un peu celui qui a succédé à Oufkir après le coup d'État. Je dis, mais ça ne va pas, mais tu es fou. Il me dit, mais parce que si Glimi vient à l'arrache demander où il est Mohamed, ils vont avoir peur, ils ne vont plus emmerder sa femme. Alors il me dit, mais tu es très sérieux, hein, c'est pas que c'était pas une plaisanterie, tu es très sérieux. Je dis, bon, ben, écoute, moi je ne connais pas Glimi, de toute façon Glimi, c'est un salaud, je ne peux pas, je ne sais pas du tout. Moi. Alors, il me dit, qui tu connais de bien, un homme fort? Je dis, écoute, je connais le patron du Parti socialiste marocain, qui vient de sortir de prison d'ailleurs, parce qu'il a été puni par le roi. Il me dit, mais s'il a été puni par le roi et s'il vient à l'arrache, il me faut des motards. Il me dit, il me faut des motards qui font beaucoup de bruit. Ils rentrent là, ils viennent à Mohamed. C'est une mise en scène impossible. Finalement, on a laissé tomber. Personne n'est allé rendre visite à Mohamed.
Ce que vous dites de lui, pour l'instant, n'est pas très sympathique, mais tant mieux.
Sympathique. Voilà un mot qu'il détestait.
Non, j'imagine.
C'est sympathique.
Non, c'est très bien.
Comme la météo.
Donc, j'aimerais qu'on en vienne à un deuxième moment qui est sur après la rencontre physique, la rencontre avec l'écriture, ou plutôt quelle leçon d'écriture il aurait pu ou il a pu vous donner. Et autrement dit, mais je vais vous citer là une seconde, il me semble, d'après ce que vous avez dit, que c'était évidemment pas en parlant d'écriture, en parlant de livres, en parlant des auteurs qu'il a pu vous apprendre quelque chose sur l'écriture, mais simplement en le regardant vivre. Et vous dites une chose, je vous cite une interview
du magazine littéraire en 99, où je cite tout, ça me paraît très bien. Vous dites, j'éprouve constamment de l'inquiétude. Vous parlez à ce moment-là de votre façon d'écrire et de vos difficultés. Vous dites, j'éprouve constamment de l'inquiétude, des insatisfactions, je manque de certitude, je suis d'une certaine façon insomniaque, je dors peu, je refuse de tomber dans le sommeil, je passe des nuits à rêver, comme lorsque j'étais petit et que mes parents m'annonçaient que nous allions partir en voyage. À chaque fois que j'écris, je suis en proie au doute. J'ai peur de sombrer dans la complaisance, peur de manquer de vigilance, peur de me perdre. Et là, vous faites un saut et vous dites, celui qui m'a le plus aidé à surmonter mes doutes, en m'apprenant à prendre de la distance, c'est Jean Genet. Nous discutions très peu de littérature. C'est en le voyant vivre, en observant son attitude devant le travail, que j'ai appris la modestie et surtout à ne pas me prendre trop au sérieux.
Oui, c'est, je confirme. Ouais. Je confirme parce que le fait, déjà, le premier jour d'avoir écarté toute discussion sur littérature en général et sur son œuvre en particulier, m'avait impressionné. Dit, voilà, c'est quelqu'un qui ne colle pas à son œuvre. C'est pas quelqu'un qui est préoccupé par le devenir de ces livres. Et je me souviens à l'époque, pas tout à fait à cette époque-là, mais quelques années après, Angelo Rinaldi avait publié un article odieux, comme il avait l'habitude de faire, sur une réédition des œuvres de Genet. Et il disait, de toute façon, Genet, c'est un écrivain poussiéreux, ça n'intéresse plus personne. Enfin, il disait des choses très désagréables sur Genet. Ça m'avait un peu choqué. Et j'en ai parlé avec Jean, je lui ai dit, écoute, bien sûr, il n'avait pas lu. Je lui ai dit, écoute, il y a un critique assez méchant qui dit des choses pas très agréables sur toi, sur ton œuvre. Et je lui ai raconté un petit peu, il me dit, mais il a raison. Ah bon, dans ce cas-là. Donc, un écrivain qui, débutant comme je l'étais, on apprend des choses comme ça. C'est-à-dire que finalement, la pire des choses, c'est d'avoir la grosse tête et de croire qu'on est un grand écrivain alors qu'on a publié deux ou trois petits textes et de se considérer le centre du monde. Et ça, il m'a aidé, il m'a sauvé parce que j'aurais très bien pu devenir un écrivain parisien fréquentant les trucs artificiels et tout, mais pas du tout. Il m'a très vite, mis le nez dans mon écriture et dans le travail. Et surtout, m'a appris cette distance essentielle, fondamentale avec ce qu'on écrit. Moi, j'oublie systématiquement tout ce que j'écris. Je n'ai aucune mémoire de ce que je suis incapable de réciter une phrase de ce que j'ai écrit. Je ne retiens rien, par volonté consciente ou inconsciente, mais je rejette tout. Je dis, de toute façon, ce sont des textes qui sont sortis et ce n'est pas terrible. Ça pourrait le devenir mieux si j'avais travaillé un peu plus. Donc, j'ai appris ça. Et c'est très prétentieux de ma part de le dire, mais je crois que je ne peux pas défendre mes textes. C'est-à-dire que je ne peux pas les. S'ils ne résistent pas à la critique objective, je ne parle pas des malveillances ou des trucs, mais quelqu'un qui. C'est que ils ne tiennent pas la route, c'est tout. Je suis pas là, je ne colle pas à mes livres. Et ça, je l'ai appris de Jean Genet. J'ai appris aussi à écrire simplement. Parce que il me demandait de temps en temps, alors qu'est-ce que tu fais? Alors j'étais en train d'écrire un roman sur la torture, sur le système politique au Maroc, qui s'appelle Mohalofou, Mohalosage, et je lui ai donné à lire avant de le publier. Et il avait vraiment lu, il m'avait fait plein de suggestions en marge, et j'ai remarqué que les suggestions qu'il me faisait, c'était les transitions entre deux chapitres. Je lui dis, ah oui, c'est vrai, tu as raison de faire ça. Il me dit, tu comprends, quand le lecteur prend ton livre, il n'est pas obligé de continuer. Alors, tu lui prends la main, il ne faut pas qu'il te la lâche. Parce que si te lâche, tu ne peux rien. Donc, ces transitions, c'est quoi? C'est une façon de passer d'un chapitre à un autre pour lui faciliter la lecture, tout en étant avec lui, ne pas contre lui. Et ça, ça a été pour moi fondamental pour apprendre à écrire, d'aller vers le... ne pas brouiller les pistes. On peut écrire des choses compliquées, mais avec un esprit de simplicité qui n'est pas du simplisme.
Enfin, c'est curieux parce que quand on lit, en tout cas, Le Captif Amoureux, c'est l'inverse. C'est-à-dire, moi, ce qui m'avait frappé, c'est justement c'est des juxtapositions permanentes qui permettent d'avancer comme ça dans le livre, mais c'est surtout pas une continuité. Et d'ailleurs, à vous lire aussi, je me souviens de ce que j'avais écrit dans Arunda, c'est justement des transitions magiques que vous faisiez, un peu comme Salman Rushdie, c'est-à-dire il y a une jarre, et puis de la jarre, on passe à... Enfin, vous voyez, c'était plutôt des transitions magiques. Et ça m'étonne de Genève, je ne remets pas en cause ce que vous dites.
Oui, mais
vous
disiez qu'il
fallait prendre le lecteur par la main et lui raconter des histoires.
Moi, je l'ai pris au sérieux, ça.
Ah oui.
Peut-être que lui se foutait de moi.
Une des énoncés préférés de Genève, je crois que c'est même le préféré, c'est cette phrase lapidaire, « Parler de mon travail d'écrivain serait un pléonasme. » Et j'insiste un peu, est-ce que vous savez un peu comment il travaillait? Est-ce que vous l'avez vu écrire? Est-ce qu'il avait des carnets en permanence? Est-ce qu'il avait des heures de travail? Est-ce qu'il avait une bibliothèque? Bon, je sais que tout le monde va dire qu'il n'en avait pas, qu'il ne lisait pas, etc. En même temps, il a tout lu. Il voulait que dans la maison d'Azedine, dont vous parlez tout à l'heure, il y ait toute la bibliothèque de la Pléiade. Donc, bon, il savait quand même ce qu'étaient les livres. Donc, est-ce que vous avez vu ça de près?
Alors, je travaillais avec lui sur le scénario La Nuit Venue. Et j'ai vu comment il travaillait. Alors, il écrivait, il raturait énormément. Il écrivait sur dans des cahiers fontaines, grands cahiers comme ça. Il écrivait au stylo et après il me donnait à lire, je lisais, il reprenait, il effaçait, c'était un va-et-vient permanent. Il était jamais content, mais il savait ce qu'il voulait. Hein. Il était très têtu. Non, c'est comme ça, comme ça. Moi, je devais faire les dialogues de ce scénario. Alors, je faisais des dialogues en arabe. Lui, il me disait. Alors, il y avait Mohamed qui devait aussi participer à tout ça. Mais Mohamed, le pauvre, il était un petit peu paumé. Il me dit, mais Mohamed avait raconté l'histoire, je crois, à Genet. Ça devait s'appeler Le Bleu des Yeux, je crois, ou Le Bleu de l'œil. Et après, c'est devenu autre chose. Enfin, bref, et il avait une façon de travailler. Je dirais pas très ordonnée, mais en même temps très, très rigoureuse, parce qu'il revenait souvent sur le texte. Une fois, il était parti en Mauritanie, c'est ce qu'il m'a dit, peut-être qu'il mentait. Hein. Il a eu une fièvre, très forte fièvre, et il est rentré à Paris très vite. Il m'a dit. Il a mis dans ses poches des feuilles. Je pense qu'il commençait déjà à écrire Captif Amoureux, je crois. Hein, mais il est rentré et il m'a dit, je rentre de Mauritanie, j'avais la fièvre et tout. Et j'ai sauvé le texte. À chaque fois, il me dit ça. Mais je ne l'ai pas vu, ce texte. Hein, je l'ai pas vu. Alors, de temps en temps, je voyais... Un jour, il m'a donné une dizaine de pages, toujours sur ce qu'il écrivait à l'époque. Je les ai gardées et en fait, c'est un chapitre de Captif Amoureux que j'ai gardé. Et donc, le Captif Amoureux, il a commencé déjà en 78-79. Il n'a pas commencé après. En fait, quand il est allé à Sabra et à Chatila, il a écrit ce texte sur 4 heures à Chatila, mais il avait déjà écrit une partie de Captif Amoureux. Je crois, mais ça, il faut voir les spécialistes.
Je vais après vous laisser le temps pour des questions, mais j'aimerais encore poser 3 questions. Peut-être on pourrait faire une comparaison, enfin continuer à essayer de définir Genet par opposition. Vous avez aussi connu Giacometti.
Non, je ne l'ai pas connu.
Non ?
Non.
Jamais rencontré ?
Jamais rencontré.
Ah bon, d'accord.
J'ai connu Giacometti par Genet, par son texte. Mm-hmm. Et j'ai travaillé j'ai fait un texte sur Giacometti parce que j'étais assez. L'introduction a été faite par Genet.
D'accord. Et alors, dans ce texte, La rue d'un seul, sur Giacometti, vous parlez
de l'indifférence naturelle de Giacometti à l'égard du confort, notamment. Et je me demandais si on pouvait opposer ça à ce que vous dites de Genet, à sa volonté de dénuement. C'est aussi une manière de vous poser une question sur le rapport de Genet à l'argent. Pauvreté, misère, la misère, on a vu des émigrés dont vous avez parlé. Quel était le rapport de Genet à l'argent? Et enfin, je me sers de Giacometti pour essayer de comprendre ce rapport-là.
Non, il aimait l'argent palpable, liquide, vraiment des espèces dans la poche. Il avait deux trucs à nourrice, là, deux épingles à nourrice, il mettait là. Il allait chez Laurent Boyer, il demandait de l'argent, toujours, pour ne pas payer des impôts. Il n'a jamais eu de compte en banque, je crois, il n'a jamais eu de chéquier, encore moins de carte de crédit. Ça c'est des choses qui le... Et il dépensait tout, pas pour lui. Il se nourrissait très mal. Il était habillé toujours avec la même chemise, le même pantalon dégueulasse et la veste en daim assez sale. Mais ses chemises étaient propres. Il devait avoir deux chemises, il les lavait, chemise blanche. Donc il n'avait pas de... L'argent, l'utilisait pour le donner à ses amis, ses amants ou amis, je ne sais pas comment les appeler, à Jackie, à Ahmed, à Mohamed. Un jour, je lui ai fait la remarque, parce qu'il ne se nourrissait pas bien. On allait au restaurant, il mangeait toujours une purée, un verre de lait ou une bière. Et un jour, je lui ai fait la remarque, quand même, il ne se nourrissait pas très bien, que peut-être qu'il n'aimait pas la table. Et il m'a dit, bon, ben voilà, je vais t'emmener à manger très, très bien. Il m'a emmené rue du Dragon, manger un lapin à la moutarde. Et je crois que c'était un lieu qu'il fréquentait quand il était beaucoup plus jeune, quand il y avait de l'argent et tout ça. Et c'est vrai, c'était un déjeuner très français, très, très bien, bien arrosé, etc. Mais lui a mangé toujours la purée. Donc, avec l'argent, c'était un truc utile. Hein. Il n'en parlait pas, mais c'était un truc qui devait circuler. Et puis, il posait des liasses d'argent sur sa petite table de chevet. Enfin, liasses, bon, par exemple, 50 000 francs de l'époque, ça fait beaucoup, 5 millions. Il parlait en ancien francs, 5 millions. Il posait, et puis il me dit, tu vois, Mohamed ne les a pas volés. À chaque fois, il me dit, mais il est con, il ne vole rien. Il est, bon, c'était, donc il y avait ce rapport-là. Mais sur Giacometti, alors voilà l'argent, je reviens à Giacometti. Giacometti a fait deux dessins, deux portraits de Genet. Et je crois qu'il lui avait donné un. Et Genet l'avait donné à Abdallah, l'homme de sa vie, qui lui l'a vendu pour de l'argent. Mais il n'était pas choqué. Il m'a dit, bon, il a bien fait, comme ça il a du pognon. Mais quand il est dans l'atelier de Giacometti, que j'ai visité il y a quelques temps, qui existe toujours, qui est toujours là à sa place, on se rend compte que c'est un espace minuscule, mais vraiment minuscule, d'où sont sorties des œuvres extraordinaires. Et Genet me disait, je m'asseyais sur une chaise dégueulasse qui me faisait mal au cul, aux fesses, et je voyais cet homme extraordinaire en train de me dessiner, et il me disait des choses, il lui parlait, mais ce qu'il lui disait n'allait pas avec ce qu'il faisait. Et puis il m'a dit, et finalement j'ai appris avec Giacometti à aimer, à respecter la poussière. C'est quand même le comble du dépouillement. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas de livres. À l'époque où je l'ai connu, il recevait des livres, mais il était là dans un coin, il ne lisait pas. Mais il était au courant de tout. Je ne sais pas comment il faisait. Il lisait toute la presse. Il lisait François, Le Monde, Figaro. Il y avait toute la presse. Il lisait parce qu'il se réveillait très tôt le matin. Il achetait toute la presse et il montait dans son petit studio de chez Bouglione. Et puis il se mettait à lire. Il était au courant vraiment de tout. De ce qui paraît, de tout ça, mais il n'avait pas la littérature contemporaine ne l'intéressait pas.
Vous m'avez parlé hier de un peu du livre qui paraîtra à la rentrée, Le Menteur Sublime, et vous me disiez que vous aviez mis au jour la question de la mère, sans doute, comme fondamentale. Et la dernière question que je voulais vous poser, c'est de quoi Genet était orphelin. Est-ce que c'est peut-être de cette mère, mais peut-être d'autre chose?
Il y a vraiment là un moment assez tragique dans notre rencontre. C'est qu'il il m'a parlé, mais d'une manière démesurée, un peu trop, de la mère de Hamza. Hamza, c'était un combattant palestinien qu'il avait rencontré dans les camps en 72-73. Et un soir, le combattant l'a emmené chez sa mère dans le camp, et la mère de Hamza avait préparé des crêpes, fait du thé ou du café, je sais pas, enfin, elle s'est occupée de jeûner comme une maman s'occupe de son fils, et s'est occupée de son fils parce que le Hamza est parti très tôt le matin pour combattre, j'imagine. Et Genet était très impressionné par l'attention de cette mère. Et alors, il me parlait plus de la mère de Hamza, qu'il a très peu connue, il a connu une nuit, que de Hamza. Et c'est en lisant Captif amoureux que j'ai compris que, en fait, contrairement à tout ce qui a été écrit et dit, Captif amoureux, c'est pas du tout c'est pas un livre sur la Palestine, quoique, bon, mais c'est surtout un livre à la recherche de sa mère. Et Genet, qui n'a jamais osé dire je vais chercher ma mère, a fait ce voyage en transposant sa quête sur cette femme qu'il a prise pour la mère génétrice, la mère symbole de toutes, c'est toutes les mères. Et il repartait dans la, parce que à la recherche de la mère, mais il savait très bien que Hamza, lui, était déjà, il avait émigré en Allemagne ou en Hollande ou je sais plus, il était parti travailler quelque part, mais il voulait retrouver ce moment qu'il a beaucoup touché, le moment où cette femme s'est occupée de lui comme elle s'est occupée de son fils. Et il a fait une... Je pense, c'est une interprétation, je peux me gourer, mais moi, en lisant, plus je lisais, plus je trouvais que le fond du texte, c'était cette recherche de la mère. Et c'est dans ce même texte qu'il dénonce le système de la parenté, la famille... La patrie ne peut être qu'une blessure. C'est très curieux. Et c'est dans ce sens-là que je pense que Le Captif amoureux est une réponse à sa quête depuis toujours, depuis qu'il était petit. C'est-à-dire un enfant placé chez des gens, une famille nourricière. Et comme c'était un grand menteur sublime, comme je dis, et il avait une enfance plutôt heureuse, qu'il essayait un peu de présenter comme désastreuse. Mais hier, vous avez parlé de l'enfant, je n'étais pas là, mais j'imagine que vous avez dit ça. Mais c'était quelqu'un de profondément de mauvaise foi, et qui se jouait de tout le monde, y compris de sa propre mémoire et de sa propre volonté d'exister.
Merci beaucoup, Tahar Ben Jelloun. Peut-être il y a des questions.
Moi, j'aurais voulu lire deux ou trois répliques d'une pièce, une pièce que j'ai... pièce que j'ai écrite sur Beckett et Beckett, Genet et Giacometti. C'est Genet qui se retrouve à Tanger et qui convoque en quelque sorte Beckett pour lui dire, voilà, nous avons été convoqués par notre ami commun Beckett, Giacometti, et on va l'attendre. Évidemment, c'est, Giacometti ne viendra pas, mais c'est une pièce qui est une comédie qui m'a été plus ou moins suggérée par Pierre Chabert, qui vient de nous mourir, et avec lequel nous avons travaillé pendant plus de 2 ans, avec des intervalles. Alors, je vais vous lire juste un passage sur les dialogues entre, entre Beckett et Genet. Alors, tout ce qui se dit dans cette pièce, en grande partie, est puisé dans des textes de Beckett ou dans des déclarations de Genet. C'est-à-dire que c'est, je ne leur fais pas dire des choses qu'ils n'ont pas dites. Mais c'est évidemment revu par, par moi. Alors, attendez. Ça, c'est, je vais juste lire le quand il parle de Sartre. Alors. Alors. Il parlait des blancs. Alors, Beckett, c'est quoi cette histoire de blanc, Genet? Ionesco était un blanc, très très blanc. Il n'aimait pas les Arabes et n'avait rien compris au problème palestinien. Le public bourgeois adore son théâtre. Il se complaît à rire de ses propres travers. Beckett, toujours aimable avec les confrères. Eh bien moi, j'ai soutenu Ionesco à ses débuts, figurez-vous. Avec Suzanne, ma femme et quelques amis, on se relayait chaque soir pour assister aux chaises afin que la représentation ait lieu. Selon la règle syndicale, il fallait qu'il y ait le même nombre de spectateurs que d'acteurs. Plus une personne, donc pour les chaises, 3 personnages, soit 4 personnes dans la salle. Pendant que Genet parle, Beckett sort de sa poche le journal L'Équipe et le feuillette. Il n'écoute pas ce que dit Genet. Puis il lève les yeux du journal et demande, Beckett, que vous est-il arrivé? Il montre de la main le fauteuil derrière lequel Mohamed se tient dans une attitude solennelle. Genet, il montre de la tête Mohamed. Et il dit, il s'entraîne, on ne sait jamais ce qui nous réserve l'avenir. C'est-à-dire que Genet est dans un petit fauteuil roulant. Genet rit, content de sa trouvaille. Puis comme il voit que Beckett n'est pas convaincu, il se tourne vers lui et dit, c'est à cause de votre ami Sartre. Beckett, Sartre? Mais c'est votre ami, à vous, pas le mien. Il vous obsède. C'est votre modèle. Vous cherchez à l'imiter. Vous êtes un auteur engagé. Vous essayez de le doubler sur sa gauche. Et en plus, vous vous plaignez. Genet. Ben oui. Sartre est le castor. Il fait le geste de nouer un foulard autour de la tête. Vous avez lu le pavé qu'il a écrit sur moi? Saint Genet, comédien et martyr. Et je ne sais plus quoi d'autre encore. Beckett. Je ne lis pas les pavés, surtout pas de ce poids. Changeons de ton. Vous aussi, vous avez été victime du canard de Sartre, le temps moderne. En tout cas, rassurez-vous, je n'ai pas lu. Genet. Tant mieux, eh bien, moi, je suis cloué sur ce fauteuil comme il m'a cloué dans son pavé de 500 pages. Beckett. Vous plaignez encore, quelle ingratitude. Mais il vous a aidé, il vous a fait connaître, bien au-delà de nos frontières. Mais vous avez voulu vous démarquer de lui. À l'extrême gauche, toutes, les Palestiniens, ok. Les Black Panthers passent encore. Mais défendre la bande Abadère en première page du Monde. Vous avez vu le concert de louanges qui a salué votre prouesse? Silence, Genet. Mais je suis devant un tribunal. C'est pas possible, Sam. Beckett se rapproche de Genet, le prend par les bras et lui dit « Qui n'a pas commis d'erreur? Sartre aussi. Mais il vous a aidé, n'est-ce pas? Il vous a tendu la main à votre sortie de prison. C'est bien ça. C'est pas rien quand même. » Genet change de ton et devient plus confidentiel. Genet. Oui. je dois vous avouer que je n'ai pas supporté de me voir dénudé par quelqu'un d'autre que moi dans mes livres. Et je mets à nu, mais dans mes livres, je me mets à nu. Mais en même temps, je me travestis. Je me revais de masques pour me protéger. De toute façon, je n'ai jamais réussi à lire sans pavé. Ça m'ennuyait. C'est assommant. Après un silence, oh, je l'aime bien, Sartre. Il est drôle. Il comprend tout. C'est agréable d'être en face de quelqu'un qui comprend tout. Il me faisait parler, mais lui ne pipait pas mot. C'est un être sensible. Oui, très, très sensible. Je l'ai vu deux ou trois fois rougir. Et Sartre rougissant. C'est adorable. Il y a toujours eu chez Sartre un air de faux jeton sur les bords. Ça m'a toujours plu.
Merci à tous deux pour cet entretien. Une question en ce qui concerne la position, enfin c'est pas une position, la manière d'être de Genet vis-à-vis de l'amitié que tu as évoquée, Taha. Comment expliquerais-tu alors que dans Un captif amoureux, qui est probablement plus un livre sur la quête de la mer ou la rencontre de la mer que sur la Palestine, à moins que les Palestiniens soient aussi une figure de la mer elle-même. Mais je laisse ça de côté. Dans Un captif amoureux, Genet dit à un moment donné que chaque fois qu'il entrait dans les bases, c'était comme entrer dans le territoire de l'amitié. Et c'est en fait une des rares occurrences où il parle de cette façon-là de l'amitié ou de la fraternité ou de la solidarité, tous ces termes dont tu dis qu'il en fait s'est toujours méfié et dont dans sa pratique, c'est le moins qu'on puisse dire par les exemples que tu as donnés, il prenait quelques distances. D'autre part, tu as insisté sur le fait que si ce n'était pas selon toi, enfin dans ton expérience de ta rencontre avec Genet, si ce n'était pas un homme d'amitié, par contre, c'était un amoureux. Et là, de nouveau, je me demande en quel sens, de quelle façon cet amour ou ce rapport à la passion amoureuse, qui lui aussi est intermittent, qui lui aussi a des arrêts brusques, qui lui aussi implique des trahisons et des abandons. En quoi ce rapport-là est-il tellement différent de ce que tu dis être son rapport particulier, je dirais par euphémisme, à l'amour? Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de l'amour-amitié chez Genet, d'une part, et d'autre part, peut-être quelque chose de particulier qui s'est joué dans l'expérience qu'il a eue avec les fédaïnes, ou comme tu l'as très bien indiqué, enfin tu y as fait indirectement allusion, la sexualité se déplace. J'ai cité la phrase moi-même, quand je ne parle pas plus du désir, ne croyez pas que je m'en éloigne, mais s'il s'agit du désir plus directement de la sexualité, mais où incontestablement l'amour-amitié fait son apparition sur la scène, enfin je crois.
Oui, effectivement, il n'avait pas le sens de l'amitié, mais il avait le sens de la passion et de l'amour. C'est ce que j'ai compris dans la fidélité qu'il a eue quand même avec les trois hommes, disons les derniers amis, avec Ahmed, Mohamed et Jackie. Et un jour, je me souviens, ils étaient tous les trois chez lui, dans le petit studio de Bouglione. C'était un petit studio, c'était une salle de bain, une chambre, c'est tout. Ils étaient tous les trois là et lui, il était très exaspéré de les voir tous les trois réunis. Et il leur dit, foutez le camp, foutez le camp. Et ils sont sortis, moi je suis resté et il me dit, un à un, je peux les supporter, mais tous les trois, c'est pas possible. il me dérange. Donc, c'était quand même très curieux, cette relation qu'il avait avec ces gens. Avec, bon, Jackie, ça a été il avait pratiquement obtempéré à tous ses caprices. C'était un amant capricieux. Il voulait le faire gagner le prix de la course automobile à Pékin. Enfin bref, il y avait des choses absolument impensables. Mais je ne sais pas, c'était très curieux parce que je ne sais pas s'il y avait de l'amitié ou presque. On dirait que c'était sa famille. Et comme il n'osait pas parler de famille, il maquillait ça sous le titre global, les gars, les copains, les camarades. Tout ça. Mais en fait, c'était sa famille, parce que c'est lui qui les entretenait, c'est lui qui leur donnait l'argent pour vivre. Mais moi, encore une fois, moi, je l'ai connu vers la fin de sa vie, où je pense que, parce que quand on lit Journal du voleur et quand on lit Captif amoureux, la sexualité s'est perdue entre-temps. Même s'il fait l'éloge des travestis ou des corps de fidéliens ou tout ça, mais je pense que ce n'est plus son sujet à ce moment-là. Son sujet, c'était une cause, mais la cause, tout à l'heure, on n'a pas eu de cause perdue, mais il disait, le jour où ils auront un territoire, ils m'intéresseront plus. C'est ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était au service de ceux dont personne ne voulait, mais que lui, il se mettait toujours. Il s'identifiait à ces causes impossibles. C'est toujours une cause impossible. Et un jour, je lui dis, il y a eu une dispute très sérieuse dans le camp, dans le Fatah. À l'époque, il n'y avait que le Fatah. Il n'y avait pas d'autres. Il y avait le FDLP, il y avait les autres, mais il y avait quand même. L'autorité palestinienne, c'était surtout le Fatah. Et il y a eu des règlements de compte, il y a eu des morts dans les rangs du Fatah. Et ça m'avait choqué. Je lui ai dit, mais tu te rends compte, ils se sont entretués. Il me dit, c'est tout à fait normal, c'est ça la révolution. Il faut que certains meurent, même de la main de leurs propres amis. Donc c'était toujours, il n'était pas toujours lisible, Genet. Il était dans, il fuyant, il était dans, il brouillait les pistes en permanence.
On arrête ici. Eh bien, moi, j'ai deux questions à poser. D'abord, qu'est-ce qui a été le tilt qui a fait qu'il a écrit?
Je vous vois pas.
Est-ce qu'il avait beaucoup lu avant d'écrire? Dans son enfance, est-ce qu'il avait lu beaucoup? Et puis, qu'est-ce qu'il a décidé à écrire, à prendre une plume?
Alors, moi, je suis mal placé pour répondre. Je vais vous dire ce que j'en sais, et puis je pense que Albert Dichy vous répondra. Mais je sais qu'il a lu en prison, et qu'il a écrit pour sortir de prison. Parce qu'un jour, j'étais toujours dans ce studio horrible de Bouglione. Il était dégueulasse, ça puait. Il y avait des cartons de lait pourris. Enfin bref, c'était horrible. Et je lui dis, écoute, Jean, c'est pas possible. Tu peux pas continuer à vivre dans cette saleté. Il me dit, j'en ai rien à faire. De toute façon, quand j'étais en prison. J'ai appris que si je devais sortir, il fallait écrire. Alors, j'avais un but. Et je me suis appliqué, j'ai écrit d'une manière formidable. C'est comme si tu me disais que si je nettoyais ce studio jusqu'à ce qu'il ressemble à un diamant, j'aurais telle ou telle chose, à ce moment-là, je le ferais. C'est-à-dire qu'il a écrit ce qu'il dit. Il a écrit besoin d'intimider les directeurs de prison et d'écrire assez, de manière assez extraordinaire, pour les obliger à le libérer, enfin plutôt à accepter les pressions faites par Jean Cocteau et plus tard par Sartre. Mais je pense que Albert va vous répondre mieux que moi.
Euh, Oui, je n'ai pas plus évidemment la réponse que Tahar. C'est-à-dire que, au fond, je pense qu'il était, il a pris la plume, comme vous dites, pas, il l'a pas prise un jour comme ça. Il avait beaucoup lu pendant son enfance, probablement beaucoup écrit. Et simplement, il y a un moment dans sa vie où ce qu'il écrit prend forme. Voilà. Je suppose qu'il est comme tous les écrivains. Il écrit depuis l'enfance. Et puis, à un moment donné, alors il se trouve que ce moment-là, est très localisable. C'est 1942, où au cours de la même année, il écrit Le condamné à mort et Notre-Dame des fleurs. Donc, on a on a ce moment-là, c'est tout.
Oui, mais je pense que ce qui a vraiment provoqué chez lui l'écriture, c'est la condamnation à mort de son ami, le condamné à mort.
Oui, qu'il n'avait jamais rencontré d'ailleurs.
Mais il est, je ne sais pas pourquoi, il a écrit le plus beau texte possible qu'on puisse écrire sur un homme qu'on exécute. Et ça, c'est pour ça qu'il dit derrière chaque œuvre, il y a un drame qui se cache. Enfin, je cite de mémoire, mais c'est une phrase beaucoup plus belle que ça. Et il y a toujours un malheur derrière toute œuvre littéraire. Et je pense que son malheur à lui, c'est pas le fait d'avoir été abandonné, enfin, ou placé dans une famille nourricière. Je pense que son vrai malheur, c'est d'avoir perdu très jeune. Des amis qui ont été soit tués, soit exécutés, et qu'il s'est retrouvé dans la Légion en Syrie à faire le rigolo dans l'armée. Quoi. C'était ça. Il avait perdu ses premiers amours. Je pense que c'est pour ça. Hein. Mais l'histoire d'enfants trouvés ou un truc comme ça, ça faisait un petit peu rigoler la galerie. Mais lui, son vrai problème, c'est lorsque des amants ou des amoureux ou des amours ont été perdus, qu'il s'est mis à écrire. Je pense que le mot inspiration ça correspond à rien. Il y a le travail, et il y a un sujet qui s'impose et qu'il se met à l'illustrer. C'est ça. Et je l'ai vu comment il. Je peux parler du moment où je l'ai vu écrire, comment il écrivait. Nous avons écrit tous les deux ensemble le texte sur les femmes palestiniennes. J'ai vu comment il faisait. C'est toujours en référence à quelque chose qu'il a vécu, quelque chose qui lui a fait mal, quelque chose qu'il étouffait parce qu'il voulait la rendre publique, il voulait témoigner avec ça. Bon, moi, je peux témoigner sur cet aspect-là, mais sur, par exemple, le miracle de la rose, je suis incapable d'en parler. Je n'ai pas encore envoyé à Albert, mais je pense qu'il y a des gens qui ont bien étudié le mécanisme de l'écriture chez Genet. Moi, je ne fais qu'un témoignage, hein, je ne suis pas du tout un spécialiste.
C'est terminé. On se retrouve à 2h30. On va prendre une demi-heure en plus, mais on pourra rattraper ensuite sans problème. Non, Patrick me dit que non. Alors, 2h15.
Merci. Dans 1h15, alors.